Bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face. Nous sommes ensemble avec vos rendez-vous du samedi, le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, suivi du débat du week-end, la démocratie entre théorie et pratique. Nos principes démocratiques sont mis à l'épreuve dans des cadres très différents aux États-Unis et en France, deux cas d'école avec des questions de fond pourtant qui sont posées aux démocraties libérales, de la démocratie en Amérique et en France. Pour en parler, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec l'un des grands penseurs du sujet, le philosophe et historien Marcel Gaucher. On lui doit des ouvrages pêle-mêle sur les droits de l'homme, les sociétés libérales, l'état de droit. Il est l'auteur notamment d'une tétralogie monumentale consacrée à l'avènement de la démocratie. Rendez-vous donc avec Marcel Gaucher dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, et comme chaque semaine, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel Natacha Polony, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Et pour commencer le duel, écoutez d'abord ce son.
On se retrouve beaucoup moins qu'à la première vague pour s'occuper d'un plus grand nombre de patients, en fait. Il faut les surveiller souvent. Nous, on est peu nombreux, donc on a l'impression de pas arriver forcément à être dans une sécurité pour les patients, quoi. Enfin, clairement, c'est difficile.
Ça fait des années qu'on se plaint, qu'on manque de personnel, de lits, de tout ça. Une crise, on descend, mais en fait, c'était avant qu'il fallait le faire, je pense.
C'était ce matin au CHU de Saint-Étienne, dans l'attente de la visite du Premier ministre qui est prévue dans la journée. C'était la parole de deux infirmières de ce CHU, des infirmières inquiètes du manque de personnel soignant dans leur établissement. Une visite de Jean Castex prévue donc cet après-midi, alors que le département est l'un des plus touchés par le coronavirus et que les capacités de ces hôpitaux frôlent la saturation. Vous avez le sentiment que l'histoire se répète, Natacha?
Oui, l'histoire se répète et hélas, on a envie de dire. C'est-à-dire qu'en effet, le problème est un problème de long terme, comme le disait cette soignante. C'est-à-dire que on ne peut pas affronter une crise de cet ordre en ne se préparant pas longtemps à l'avance à avoir affronté n'importe quelle crise. Et nous nous retrouvons dans une situation qui est une situation terrifiante, puisqu'en effet, de nouveau, les hôpitaux sont saturés, mais à côté de ça, les conséquences de ce nouveau confinement comme du premier vont être tragiques. Et tout le problème est en fait une confrontation que nous voyons se dessiner dans toutes les démocraties occidentales entre le court terme et le long terme.
Oui.
C'est-à-dire que nous sommes dans un système qui s'est fondé sur le court terme, une économie de flux tendu, en oubliant qu'on ne peut gouverner qu'à long terme. Et aujourd'hui, nous avons, c'est vrai, les morts du coronavirus qui s'accumulent et qu'on annonce et qui sont terrifiants. Tous les morts à long terme que fera de nouveau ce confinement ne se verront pas, mais le coût d'une crise économique en termes de vies humaines est absolument tragique. Et il est, vous voyez, par exemple, une simple statistique, même dans une économie comme le Danemark, qui est une économie riche, qui est une économie où la protection sociale est extrêmement forte, eh bien le risque de surmortalité pour une personne dans l'année qui suit sa mise au chômage est de 79%. C'est absolument énorme.
79%?
Oui, de risque de surmortalité, ouais, dans l'année qui suit. Voilà, et je pourrais vous en égrener d'autres. Ça nous montre que à long terme, nous allons payer très très cher un système qui était un système de courte vue.
Gilles Finkelstein.
Oui, nous disions il y a une semaine ou deux qu'on avait du mal à se figurer ce qu'était une courbe exponentielle. Quand on entend le témoignage de cette soignante, on la vit. Et on sent déjà que ce confinement aura une durée plus longue, va avoir certainement des modalités plus dures, alors même que l'on commence à avoir des objectifs moins ambitieux, c'est-à-dire que à la sortie du confinement, le taux de reproduction du virus, le fameux R,
oui.
On disait il faut qu'il descende à 0,6, 0,7, on finit par se dire que à 0,9 ça ira bien. Donc ça, c'est les effets d'une courbe exponentielle. Quand elle est partie, elle est très difficile à contenir. Après, par rapport à ce que disait Natacha, quand on regarde les différentes fonctions de l'État, je trouve que dans sa fonction de protection, l'État a plutôt bien joué son rôle, notamment sur les mesures d'accompagnement social, peut-être à l'exception, et même sans doute à l'exception des jeunes. Sur ces fonctions d'organisation, les masques, les tests, les blouses, c'est quand même mieux, et donc l'histoire ne se répète pas complètement. En revanche, sur les fonctions d'anticipation, on voit que là, il y a une défaillance, sans doute dans la prévision de cette deuxième vague, et sans doute aussi, on y reviendra sur les questions du lycée et des collèges, et puis certainement sur la question de plus long terme de l'hôpital.
Pourquoi l'un et l'autre, Natacha et Gilles, vous parlez du problème de la prévision ? Puisque nous savions plus ou moins qu'il y aurait une deuxième vague, qu'elle avait été annoncée notamment par le conseil scientifique. Problème de prévision ou de préparation, Natacha ?
Les deux. Les deux, c'est-à-dire que il y a eu, nous en avions déjà parlé ici, je me souviens, un problème dans l'organisation très simple des services de l'État entre le mois de juin et le mois de septembre, c'est-à-dire que alors même qu'on savait que cette deuxième vague allait arriver, on n'a pas utilisé ce temps pour se préparer. C'est absolument flagrant sur la question des universités. Je veux dire, on a semblé découvrir au mois d'octobre qu'il y avait une rentrée universitaire et que c'était sans doute l'élément le plus dangereux et celui qu'il aurait fallu penser à l'avance. Et puis, problème de prévision dans le sens, je le disais, où ce genre de crise ne se gère pas au mois près. La réactivité est infime. Gilles disait à juste titre que cette capacité d'anticipation, alors que là, il n'y a pas eu de capacité d'anticipation et qu'il n'y a même pas eu de capacité d'organisation. En effet, sur la question des tests, nous avons péché. Sur la question de l'isolement des malades, nous avons péché. Alors, encore une fois, ça ne sert à rien de se retourner sur le passé, encore que là, ça peut permettre quand même de rater la troisième vague, ça peut permettre d'éviter de rater la troisième vague. Mais j'y insiste.
Oui.
Gouverner, c'est avant tout penser le long terme quand tout dans notre société est fait pour fabriquer du court terme. L'écrivain Sylvain Tesson disait il y a quelques jours dans le Figaro, on ne peut pas gouverner sérieusement sous l'œil d'une caméra. Et en fait, tout le problème est là. C'est-à-dire que la façon dont nous faisons vivre aujourd'hui l'État, la puissance publique, sous la surveillance des réseaux sociaux, sous la surveillance des médias d'information continue, font que ce sont systématiquement les enjeux de court terme qui vont être choisis et jamais une organisation à long terme qui permettrait sans doute d'avoir, de choisir la direction dans laquelle nous voulons aller et donc la société dans laquelle nous voulons vivre.
Gilles Finkelstein, et vous aviez une étude, Gilles, dont vous vouliez nous parler, puisqu'on n'en finit pas d'analyser, de découvrir les conséquences secondaires de cette pandémie.
Oui, je vais dire un mot de cette enquête sur le suicide qui a été publiée cette semaine. Je reviens juste de deux mots sur la question de la prévision et la question de la préparation. Sur la prévision, vous avez raison Ali, le conseil scientifique a dit très tôt que la probabilité d'une seconde vague était extrêmement forte. Le problème est qu'il y a eu des controverses à l'intérieur même du monde scientifique qui ont irrigué le débat public et qui ont pesé sur les comportements. Ces controverses-là ne sont pas nouvelles, elles ont déjà eu lieu lors de la première vague et lors du premier confinement. La différence, c'est que lors de la première vague, ça portait sur la nature des solutions. Est-ce qu'il faut tel médicament ou tel autre ? Là, ça portait sur la réalité même du problème, oui. La réalité de cette seconde vague. Et donc, ça a eu un effet. Et ça a eu un effet dans la plus grande difficulté que nous avons eu collectivement à nous préparer. Deuxième mot sur la préparation. Je mets à part la question de l'hôpital dont nous avons déjà parlé. Mais je crois qu'il y a des contradictions qui sont inévitables. Par exemple, s'agissant du commerce, des commerces, qui a été un des sujets qui a animé le débat cette semaine, je pense que la contradiction est inévitable. La question est de savoir qu'est-ce que nous voulons comme contradiction. Pourquoi ? Lorsque vous avez à la fois différentes tailles, des petits et des gros, lorsque vous avez différentes formes du commerce physique et du commerce numérique, dès lors que vous n'ouvrez pas tout, ouais, il y a obligatoirement une contradiction. Et donc, il faut choisir quelle est la contradiction, mais il ne faut pas se leurrer, il ne peut pas ne pas y en avoir.
Quand vous dites contradiction, ça veut dire inégalité ou injustice ?
Exactement, exactement. C'est obligatoire, c'est dès lors que vous avez des petits, des gros, du numérique et du physique et que tout n'est pas ouvert, eh bien, il y a nécessairement une distorsion de concurrence. Après, il faut choisir laquelle.
Oui, en mais revanche, ce qui est gênant...
Natacha.
Oui, Natacha.
Pardon, mais juste un mot. Ce qui est gênant, Gilles, c'est qu'on choisit toujours dans le même sens. C'est-à-dire que ce sont les petits, parce que justement, ils sont isolés et seuls, qu'on sacrifie tout en maintenant les gros.
Alors, ça pose la question, mais qui est un très beau débat, de... Est-ce qu'il aurait pas fallu faire l'inverse de ce qui a été fait en France et ce qui a été fait par exemple en Espagne, de fermer les grandes surfaces et d'ouvrir les petits commerces? Ce débat-là, il a été évoqué d'ailleurs par Arnaud Montebourg cette semaine. Le problème quand on regarde ce qu'est la réalité de notre pays, c'est que dans beaucoup d'endroits, les seuls commerces qui sont accessibles,
ce sont les grandes surfaces.
À la fois pratiquement et financièrement, ce sont les grandes surfaces. Et donc, je crains que ce soit une vue qui soit une vue un peu parisienne, ce qui est paradoxal pour un ancien élu de province.
Non mais, pardon, mais il y a un moyen qui peut être utilisé qui s'appelle une jauge, c'est-à-dire en fonction de la surface du commerce, un certain nombre de personnes. Parce que qu'on soit dans une grande surface ou dans une petite, des gens s'entassent dans des supermarchés où certes il y a de l'espace, mais où finalement ils se retrouvent collés les uns aux autres à toucher des produits, ce n'est pas plus sûr qu'un petit commerce qui ne ferait rentrer les gens que de façon parcimonieuse. Donc il serait absurde de ne pas voir qu'il y a des endroits où les grandes surfaces sont absolument nécessaires. Ça, on est entièrement d'accord. En revanche, il y avait d'autres solutions que cette solution qui sacrifie non seulement des petits, mais surtout qui, derrière, risque d'enclencher quelque chose qui ne se rattrapera pas. Donc, on sacrifie une certaine conception des rapports sociaux et une problématique culturelle.
Et une problématique évidemment psychologique, les causes psychologiques, les conséquences psychologiques de la pandémie sont difficiles à mesurer, Gilles, mais on a une étude donc qui a été rendue publique cette semaine et qui est assez troublante, voire désespérante.
En tout cas, elle est alarmante. C'est une étude sur le suicide. Ça fait maintenant des mois qu'on essaie de comprendre quels sont les effets des crises, les effets de cette crise, les effets du confinement sur les plus fragiles. On publie cette semaine un petit essai de Julien Damon qui s'appelle « Les inconfinables », c'est-à-dire sur ceux qui ne peuvent pas être confinés en France et ailleurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de domicile. Et là, il y a cette étude sur les suicides qui est conduite par Michel Debout, qui est à la fois administrateur de la Fondation Jean Jaurès, mais qui est un des meilleurs experts français du suicide, dont on peut retenir, je crois, deux choses en deux phrases. D'abord, le risque de suicide est élevé. Vous avez 20% des Français qui disent avoir sérieusement envisagé de se suicider. Et le deuxième, c'est que ce que l'on sait du passage à l'acte, c'est qu'il ne se passe pas pendant les périodes de confinement ou pendant les périodes de crise, mais qu'il se passe après. Et donc, peut-être ce à quoi cette étude peut être utile, c'est de signal d'alerte pour les pouvoirs publics pour une politique de prévention et d'attention beaucoup plus efficace.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Je pense que le gouvernement ne sait pas quoi faire. C'est un bon signe, vraiment, cela me donne de l'espoir. Et j'espère que ce gouvernement va nous parler pour trouver un compromis qui cette fois va satisfaire la plupart des gens, et pas seulement certains croyants.
C'était une manifestante jeudi à Varsovie, la capitale de la Pologne, manifestante qui se réjouissait du recul du gouvernement polonais sur l'IVG. Ça fait maintenant 2 semaines que de très nombreuses femmes polonaises manifestent tous les jours dans la capitale comme dans le reste du pays pour défendre leur droit à l'avortement dans un pays qui a déjà l'une des législations les plus restrictives d'Europe en la matière. Et une décision du tribunal constitutionnel polonais est venue ajouter encore une contrainte en interdisant les avortements en cas de malformation du fœtus. Et vous vouliez revenir sur ce sujet, Gilles et Natacha, sujet dont on a peu parlé parce qu'il y avait évidemment l'actualité du Covid et du confinement, ce qui se jouait aux États-Unis, mais c'est en Europe et c'est un enjeu fondamental qui est en train d'être débattu en Pologne, Gilles.
Oui, je suis heureux qu'on y revienne parce que je crois que c'est le symbole d'un droit qui est menacé. Il y a cette offensive en Pologne, vous l'avez évoqué, dans lequel il y a un recul dans un des deux pays qui est le plus en retrait par rapport à l'ensemble de l'Union européenne, c'est-à-dire un des deux pays dans lequel ce ne sont pas les femmes qui décident dans un certain délai de procéder à un avortement, mais ce sont les médecins dans un nombre de cas limité. Et aujourd'hui, la décision du tribunal constitutionnel revient en réalité à une quasi-interdiction de l'avortement. Mais il y a aussi une offensive internationale dans laquelle cela se situe, puisque vous avez eu, il y a quelques jours, un manifeste de 32 pays qui a été signé pour lutter, pour s'opposer à l'avortement, et que cette offensive a été souvent instrumentalisée par le Covid, c'est-à-dire que en période de confinement, il a été encore plus difficile de recourir à l'avortement pour les femmes. Donc je crois que c'est très important qu'on y revienne et que ce qui se passe en Pologne est important. C'est vrai d'un point de vue de la société, l'ampleur des manifestations. Chaque jour, vous avez des dizaines de milliers, parfois plus de 100 000 personnes qui manifestent. Le profil des manifestants, ce ne sont pas seulement des femmes. Il y a des jeunes, il y a y compris une partie de la droite qui est là. Et que c'est important d'un point de vue politique. La personne qui était interrogée disait « le gouvernement ne sait pas quoi faire, on a un pouvoir qui est ébranlé, le président de la République a perdu 10 points de popularité et on a un pouvoir qui est divisé entre les plus durs, notamment l'Église catholique et le vice-premier ministre, c'est-à-dire Kaczynski qui est le réel détenteur du pouvoir, et le président de la République qui essaye un peu de trouver un compromis. Donc c'est très important de suivre ce qui se passe là-bas et c'est très important que l'Europe ne reste pas inactive. La présidente de la Commission a pris position. Cette semaine même, le Parlement européen a voté un texte qui fait un lien entre l'attribution des fonds européens, notamment pour la relance et le respect de l'état de droit. Oui. Donc je crois qu'il faut continuer dans cette voie.
Natacha, avant de retrouver Marcel Gauchet.
Ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est qu'il nous montre, alors sur un sujet absolument tragique, la question du rapport entre le politique et le juridique au sens large. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le gouvernement est embarrassé. Pourquoi ? Parce que c'est une jurisprudence du tribunal constitutionnel. C'est-à-dire qu'en gros, le PiS, le parti ultra-conservateur polonais, a placé depuis des années des juges tout aussi ultra-conservateurs partout. Et du coup, ça aboutit à cette décision, contestée dans la rue par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, ce qui oblige le gouvernement à se dire qu'il a commis une erreur, à essayer de reculer, sauf qu'il ne peut pas, puisque justement, c'est le tribunal constitutionnel qui a décidé, donc le pouvoir politique se retrouve emprisonné. Et c'est d'où l'importance de penser cette question de la façon dont la démocratie se construit. On va parler avec Marcel Gauchet tout à l'heure de la question de l'état de droit.
Oui, bien sûr.
Comment l'état de droit se construit entre le politique, c'est-à-dire les élus qui sont censés représenter la volonté du peuple, et les garanties que doivent constituer les juges gardiens de la constitutionnalité, gardiens du droit fondamental. On a là un exemple, j'allais dire par l'absurde. En effet, dans un contexte, Gilles a raison de le rappeler, où il y a des attaques contre le droit à l'avortement partout en Europe, et c'est un sujet sur lequel il est nécessaire d'être attentif et de se mobiliser, je pense, et d'autant plus que, en effet, on se retrouve avec le résultat d'un noyautage, en tout cas d'une prise de pouvoir progressive par un parti ultra-conservateur.
Un mot, Gilles.
Oui, un mot. C'est bien parce qu'on va voir le prolongement de cette discussion avec Marcel Gauchet. Mais sur l'état de droit, je pense que le problème ne vient pas d'un excès d'état de droit et donc d'une contradiction qui peut arriver et dont on va débattre entre des cours constitutionnels et un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Il vient d'un défaut d'état de droit et le fait que le pouvoir politique a voulu prendre la main, avoir à sa main la cour constitutionnelle et que maintenant il est bien embêté.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.